Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, Inly, Axéo et IDPRO sur Radio Imo et Radio Territoria.
Vous êtes toujours sur Radio Imo, on est au Salon CIMI, Porte de Versailles. Encore, la journée continue, elle approche de la fin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui traverse un peu toutes les conférences, qui guide le fil rouge de ce salon et qui reste parfois très théorique, c'est la décarbonation de l'immobilier. La question, en fait, elle n'est plus pourquoi, mais comment. Comment est-ce qu'on peut passer concrètement de l'intention à l'action ? Entre contraintes réglementaires, pression des investisseurs, enjeux de valeur et faisabilité opérationnelle, le passage à l'acte reste parfois complexe. Et moi, je suis entouré de trois experts pour en parler. Alors d'abord, Astrid Veit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de Groupama Immobilier. Merci beaucoup d'être avec nous. À votre droite, Astrid, Kevin Lecerf. Bonjour, Kevin.
Bonjour.
Bienvenue sur l'antenne de Radio Imo. Vous êtes Head of ESG chez CBRE France. Merci beaucoup d'être là. Et puis à ma gauche, Olivier Wasana. Bonjour, Olivier.
Bonjour Grégoire.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes président et directeur général d'ACT Commodities France. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Et une première question très simple. Pourquoi est-ce qu'on observe encore un écart entre les ambitions carbone affichées et la réalité du terrain ? Peut-être Astrid, en commençant par vous.
Alors, déjà, souvent quand il y a un écart, c'est que quelqu'un a dit à un moment donné, c'est compliqué. Ça devrait être un mot interdit, c'est compliqué, parce
c'est
que c'est,
très français.
C'est un mot alibi qui permet d'avoir des idées et de ne jamais passer à l'action. Nous, notre feuille de route en développement durable chez Groupama Immobilier, elle s'appelle Agir, action pour une gestion immobilière responsable. Et on termine toutes les présentations par Agir rend heureux. Alors pourquoi on dit ça ? Parce que on veut vraiment que ce mot interdit nous permette d'appuyer très fort sur le piston pour que ça sorte de façon décarbonée, parce qu'on a la conscience d'abord qu'on est le métier le plus carboné de notre groupe, parce que nous on est un groupe d'assurance, donc le carbone dans les assurances c'est surtout les véhicules des commerciaux qui se déplacent.
Ouais.
Mais si on dit ça, on oublie que 38% des émissions de gaz à effet de serre c'est l'immobilier. Donc c'est à nous d'être le rôle modèle de notre groupe en matière de décarbonation. Ensuite, on est propriétaire de beaucoup de bureaux. Le carbone dans le bureau, c'est 70% dans la construction et 30% dans l'exploitation. Et c'est vraiment sur les deux notions qu'il faut jouer. Et donc on a fait le travail très méthodique pour déterminer comment est-ce qu'on pouvait passer à l'action sur les deux thématiques.
Kevin ?
C'est une très bonne remarque et je rejoins Astrid. Je pense qu'il y a aussi un sujet sur la question de la gouvernance des données. On a vraiment beaucoup de données, mais finalement, on a peu de données qualitatives, de données réelles. Et je pense que l'un des enjeux, c'est de travailler ça. Et l'autre sujet aussi de cet écart, c'est la question des CAPEX. Il faut vraiment qu'on travaille nos portefeuilles, tous les CAPEX, quels que soient les différents acteurs de l'industrie, sur des CAPEX qui soient intégrés dans les business models, qui soient concrets, qui ont des retours sur investissement et qui ont une vraie valeur ou à long terme, ou à court terme, pour les acteurs.
Olivier ?
Oui, absolument. On a la chance, en France, d'avoir un dispositif qui s'appelle le certificat d'économie d'énergie, qui a été reconduit pour une nouvelle période de 5 ans à compter de 2026, et qui sert à financer cette transition et cette efficacité énergétique, notamment pour les bâtiments. On l'a vu sur la période qui est en train de s'écouler. On avait une enveloppe d'investissement d'environ 6 milliards d'euros par an. Et sur ces 6 milliards, un peu plus de 75% ont été dédiés aux bâtiments, que l'on parle de résidences individuelles, collectives, bureaux, entrepôts logistiques. Donc on avait quasiment une enveloppe de 4,5 milliards qui a été allouée à la rénovation énergétique de ces bâtiments. Et pour la sixième période, ce sera vraisemblablement 25% de plus. Donc on sera entre 5 et 6 milliards d'euros qui pourront être utilisés pour opérer à cette décarbonation des bâtiments.
Astrid, outre le fait que c'est compliqué et que ça ne devrait pas l'être, où se situent pour vous les principaux freins justement aujourd'hui ?
Alors, déjà, il y a un sujet, c'est que la décarbonation, elle doit être intégrée dès la conception, parce qu'après, c'est juste absolument trop tard. Et donc, c'est à nous, maîtres d'ouvrage, qui sommes les donneurs d'ordre du produit qu'on souhaite réaliser, d'instruire auprès des bureaux d'études et des architectes le fait d'être vraiment décarboné dans nos projets. Ensuite, tout au long du projet, il va y avoir un certain nombre d'arbitrages. Mais si on n'est pas dans une philosophie où on demande à chacun d'être très engagé et d'essayer de trouver des solutions, et bien à ce moment-là, c'est très facile de passer à côté, en fait. Et donc, peut-être qu'il faut raisonner, par exemple, en confort modulo un tout petit peu d'inconfort. Peut-être qu'il faut raisonner en un équilibre entre mettre du carbone pour que l'immeuble puisse durer très longtemps par rapport à mettre moins de carbone, mais il va durer pas très longtemps. Parce que ça aussi, c'est un sujet, c'est quand on rénove un actif immobilier, est-ce qu'on le fait pour le temps qui me reste avant ma retraite, hein, ou est-ce qu'on le fait pour du temps très long? Et quand on est dans le temps très long, eh bien, on a plus de moyens d'agir en euros qui vont nous permettre de faire des choses mieux en carbone. Et ça, c'est dans un business plan qu'on va le trouver.
Ouais.
Et dans le business plan, le business plan, c'est assez schématiquement quelque chose. C'est un document dans lequel on écrit une histoire et on va voir son banquier. Moi, je fais exactement la même chose sur les actifs avec nos équipes. On écrit des business plans, on va voir notre groupe et on leur dit voilà ce qu'on veut faire. Et si on est sur le temps long et qu'on arrive à démontrer
que
peut-être ça coûte un peu plus cher, mais ça coûte d'ailleurs pas toujours un peu plus cher en fait, mais qu'on peut anticiper quelque chose et qu'on crée une valeur pour le long terme, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de sujet.
Kevin, pour compléter, parce que tout à l'heure vous avez parlé de données, de problèmes de données, est-ce qu'il y a aussi un problème de méthode ou de gouvernance dans les projets ?
Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des solutions. Je pense que c'est ce qui est important. On a la chance d'avoir beaucoup de normes. Il faut vraiment le voir comme des qualités. Donc, effectivement, il y a toutes ces normes, toutes ces choses. Ça permet de faire un entonnoir de création de valeur, par exemple. Et il faut vraiment utiliser la CSRD, toutes ces normes, toute la taxonomie notamment, pour utiliser les projets et aussi faire preuve de bon sens. Utiliser vraiment la data, utiliser les CAPEX et vraiment être très... très efficient par rapport à ça.
Et Olivier, est-ce que le sujet il est encore trop traité sous un angle moral, déclaratif, et peut-être pas assez sous un angle stratégique ? On en revient.
Je pense de moins en moins. Alors la dimension morale déjà, elle est claire. Astrid l'évoquait, la prise de conscience, elle est là, ouais, indéniablement. Après, il y a toujours des enjeux financiers qui sont corrélés à cela. Enjeux financiers sur lesquels on pouvait manquer aussi un peu de data. Et hier est sortie une étude très intéressante des notaires de France qui ont publié un comparable sur en fait, le coût de l'efficience énergétique d'un logement. Et donc, ils ont détecté et identifié que le différentiel à surface équivalente sur du logement d'habitation, hein, c'est pas du logement professionnel, mais d'habitation, entre un classé G et classé D à surface équivalente était de 25%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, très clairement, dans les critères d'achat et la valorisation, l'efficience énergétique et ou demain, bien évidemment, son étiquette carbone vont être un élément clé, soit défensif, soit offensif, selon le parti pris. Et ces datas-là, elles seront de plus en plus disponibles et vont être, au-delà de la dimension, bien évidemment, sociale, des éléments clés dans la politique d'investissement.
Alors, vous en avez parlé tous les trois, hein. Il y a plusieurs cadres simultanés qui se posent et avec lesquels les professionnels doivent composer. Décret tertiaire, CSRD, attente des investisseurs, pression croissante sur la valeur des actifs. Comment est-ce qu'on fait pour aligner ces exigences sans se perdre ?
Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que il faut qu'on soit triple A.
Ok.
Adaptation, atténuation et anticipation. On aime bien parce que c'est un vocabulaire emprunté à la finance, donc c'est un joli pied de nez pour dire voilà, on va faire des immeubles triple A. Et pour faire ça, il faut entraîner toute la chaîne de valeur avec nous. Et donc on est à l'initiative de pas mal de sujets. Par exemple, j'aime bien celle qui s'appelle Impact, qu'on a identifié avec A4MT comme étant une façon de mieux réunir un bailleur et son locataire sur le fait d'opérer l'immeuble de façon plus décarbonée.
Okay.
Mais le locataire, il est très content de faire ça. Le bailleur, il est très content de faire ça. Et pourtant, on n'arrive pas à les mettre ensemble dans une vision commune. Et en fait, il faut qu'on arrive à d'abord à trouver ce terrain d'action. Peut-être qu'on se dise que l'annexe environnementale, c'est une annexe et qu'on peut faire mieux que ça. Que le bail vert, c'est super, mais que le bail vertueux, ça serait quand même beaucoup mieux. Et si on arrive à embarquer le locataire qui sera ravi de le faire et le mainteneur qui va opérer l'immeuble, eh bien, on aura gagné sur toute la partie exploitation. Donc voilà, la conception, c'est une chose. L'exploitation, c'est une deuxième chose. Et franchement, on peut devenir triple A avec des choses extrêmement simples qui ne coûtent pas forcément. Et donc, on peut aligner le décret tertiaire qui est un sujet très utilisateur finalement, même si ultimement l'obligation elle repose sur le bailleur pour accompagner, parce que un utilisateur c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait pas de l'immobilier, c'est pas un bureau d'études, c'est pas des ingénieurs, eux ils veulent juste être confort dans des bureaux et ils ont besoin d'être accompagnés, et nous on est des sachants de la matière immobilière et donc on peut tout à fait de façon pertinente accompagner un chef d'entreprise ou des RH ou des services généraux dans le fait d'opérer mieux un bâtiment.
Et puis parce que aussi ces problématiques-là ou ces exigences-là, elles font partie de leur quotidien maintenant.
Absolument. Et puis c'est aussi une demande des collaborateurs assez souvent.
Oui, c'est
vrai. Et donc quand ça remonte par la base, eh bien il faut effectivement agir de façon coordonnée.
Kevin.
Oui, c'est de toute façon il y a vraiment toutes ces patterns, toutes ces normes. Et du coup il faut jouer avec et faire un entonnoir de création de valeur. Concrètement, on a le décret tertiaire, il est là, il existe, il est obligatoire pour tout le monde. On a la SSRD, ça permet vraiment d'avoir une collecte de données, et les données et les retours données sont extrêmement intéressantes. Et effectivement, il faut toujours réfléchir au sens et à la destination de nos actifs et à notre business model. Il faut réfléchir à la liquidité, recréer la liquidité, et du coup, retravailler les capex, les dépenses, nos missions, nos écosystèmes, pour que ce soit beaucoup plus efficient et avec beaucoup de bon sens.
Et c'est vrai que tout le monde n'a pas le même degré de connaissance. Donc j'imagine que pour embarquer tout le monde dans cette voie-là, il faut aussi faire preuve d'une grande pédagogie et vraiment les accompagner, c'est ce que vous disiez.
Oui, mais c'est notre boulot.
Oui.
C'est vraiment notre boulot. On est les
et
docteurs de l'immobilier.
Et ils s'ouvrent de plus en plus à...
Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, souvent, alors, quand on a lancé l'initiative Impact, j'avais une petite phrase, un peu teaser, je disais, c'est comme si on était tous les deux venus sur Tinder, le bailleur et le locataire, pour avoir pas envie de conclure. Ça serait quand même dommage.
C'est original.
Voilà.
Olivier.
Alors moi, je suis moins souvent sur Tinder, mais néanmoins, non. Nous, notre mission, c'est justement par rapport à ces normes-là, de mettre à disposition des outils de financement, ce dispositif des C2E, en nous assurant que toute la valeur remonte bien à l'asset manager et au property manager, que la prime ou une partie de la prime ne soit pas captée par une multitude d'installateurs et qu'elle soit vraiment portée et mise en œuvre pour financer des travaux de rénovation et d'efficience énergétique. Et dans ce cadre-là, s'intégrer dans les stratégies liées aux normes portées par les assets et par les PM.
Et justement, Olivier, là, si on croise un professionnel de l'immobilier présent au CIMI, il nous demande par quoi est-ce que je commence demain pour vraiment décarboner mon patrimoine ?
Alors, tout dépend de quel patrimoine on parle, évidemment. Là, il y a très clairement une volonté du gouvernement d'adresser l'électrification, et notamment sur la partie pompe à chaleur. Donc, il y a, si vous êtes plutôt entrepôt, très clairement, pompe à chaleur, peut-être même couplé à de la géothermie, puisqu'il y a des bonifications et des coups de pouce très forts qui apparaissent dès le 1er janvier. Sinon, si on parle bien évidemment d'habitation, quoi qu'il en soit, se tourner vers de la pompe à chaleur, du raccordement, si possible, et puis coupler tout cela à une chaudière électrique pour s'assurer qu'on a pleinement décarboné les usages de ces bâtiments.
Astrid ?
Nous, on a fait le choix de regarder la labellisation BBCA.
Ok.
Qu'on a déjà obtenu pour certains de nos actifs en exploitation, en restructuration aussi, mais BBCA exploitation, en fait, ça accompagne une démarche qui intègre toute cette chaîne de valeur, comme je le disais tout à l'heure, le locataire, le mainteneur et le propriétaire.
Tout le monde est concerné.
Parce qu'on n'est pas obligé d'être seul, en fait, dans la décarbonation.
Non,
on peut se faire aider de choses qui existent et qui sont très bien. BBCA va avoir 10 ans cette année. On va fêter les 10 ans, c'est le 18 décembre. Donc ça va être une grande fête de la décarbonation, mais c'est surtout une démarche extrêmement structurante. Ça coûte pas cher. Être membre de BBCA, ça coûte pas cher non plus. Donc j'invite tous ceux qui ont envie, les bureaux d'études, les concepteurs, les propriétaires, à devenir membre de BBCA, parce que franchement, ça permet de rentrer dans un écosystème où on se sent pas seul dans la décarbonation. Peut-être la première chose à faire, si je devais en trouver une, c'est rejoindre BBCA.
Rejoindre
BBCA. Et j'ai pas d'intérêt dans l'organisation.
Kevin ?
Peut-être trois grands axes. Le premier, vraiment avoir de la véritable et de la vraie donnée. d'avoir des vraies consommations, de ne pas rester uniquement sur des fiches techniques ou ce type de choses qu'on voit malheureusement beaucoup sur beaucoup de projets. Ensuite, d'avoir des trajectoires de décarbonation très claires et de ne pas utiliser les outils de la trajectoire crème, par exemple. Ça permet vraiment d'avoir cette vision-là et de voir l'obsolescence possible de son actif ou de son portefeuille d'actifs. Et au final, provisionner des capex verts. Et comme le disait Astrid, à l'instant, vraiment d'avoir des choses qui, au-delà de provisionner des sommes importantes, d'avoir du bon sens, de travailler les écosystèmes différemment, de biosourcer pourquoi pas des matériaux, et d'avoir des solutions qui permettent vraiment de faire des économies d'échelle. Et on le voit sur les projets, ce type d'exemple permet vraiment d'aller extrêmement loin et d'être extrêmement performant.
Allez, pour conclure, je vais vous demander un difficile parfois travail de projection à vous trois. Si on se projette dans 5 à 10 ans, il ressemble à quoi l'actif immobilier désirable d'un point de vue carbone ? Qui s'y colle en premier ?
Moi, je veux bien.
Astrid.
Déjà, c'est le même qu'aujourd'hui. On ne l'a pas retravaillé 3 fois entre-temps, en fait. On a fait beaucoup d'architecture Kleenex dans les dernières années. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on pense la conception de nos actifs immobiliers pour du temps très long, avec de la réversibilité, avec des matériaux biosourcés, avec des systèmes de production économes. Mais économes, ça ne veut pas forcément dire totalement décarboné, parce qu'il faut aussi être prêt pour le climat de 2050. Donc il faut aussi anticiper ça, en fait. Hein. Donc il y a un équilibre à trouver, encore une fois. Mais moi, je veux bien que dans 5 à 10 ans, la restructuration qu'on a faite il y a 5 à 10 ans, elle soit toujours là et elle soit toujours dans le bon goût et le bon air du temps.
Olivier ?
Moi, je vais plutôt parler des bâtiments existants, justement. Mmh. Pour moi, le bâtiment existant, c'est un bâtiment qui a permis, ou en tout cas qui a permis une rénovation globale type Energiesprong. Donc, c'est vraiment cette capacité à accélérer l'efficience énergétique et carbone d'un bâtiment. Et surtout, c'est un lieu de cohésion. C'est un lieu où on retisse du lien social parce que c'est aussi par cette circularité et ce partage des installations, des facilités, qu'on arrivera réellement à décarboner l'habitat tel qu'on espère le concevoir de notre côté.
Kevin ?
Peut-être deux mots, liquide et résilient. Liquide parce qu'il faut absolument qu'on soit aligné à la taxonomie, et au-delà de la taxonomie, il faut qu'on soit finançable pour les banques. Ça, c'est extrêmement important à réfléchir.
Oui, que ce soit pas un gadget.
Exactement. Et résilient parce qu'il faut qu'on décarbone, mais il faut aussi qu'on adapte. On parlait tout à l'heure, la question des 40 degrés en été à Paris arrivera rapidement. Elle existe déjà bientôt. Donc il faut vraiment qu'en fait on réfléchisse à ce sujet-là et qu'on soit beaucoup plus résilient et innovant.
Eh ben, merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges. Moi je retiens que la décarbonation de l'immobilier, c'est plus une question d'intention ou de promesse, mais de méthode, de priorisation et de passage à l'acte. Merci beaucoup. Merci Olivier de nous avoir rassemblés.
Merci Grégoire.
Je vous souhaite à tous les trois un bon salon CIMI.
Merci à tous.
Merci.
Le CIMI du 9 au 11 décembre 2025 à Paris Expo Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, Inly, Axéo et IDPRO sur Radio Immo et Radio Territoria.